Transistor.
C'est la phase B.
Transistor
Web.
Bonjour, bonsoir et que sais-je encore. Bienvenue dans cette pièce radiophonique qui se veut aujourd'hui porte-voix. Porte-voix de qui ? Du syndicat Echard. En effet, celui-ci a posté aujourd'hui un communiqué concernant la venue à l'ENS d'un chercheur au CNRS, François Rastier. Celui-ci est censé venir présenter une conférence de sciences sociales en étant linguiste qui a l'intitulé « Race et sciences sociales ». Jusque-là, rien de choquant pour la plupart des gens. Cependant, un fait notable fait monter le syndicat au créneau. En effet, ce François Rastier est signataire du manifeste dit « décent ». Un manifeste qui se veut défendre les déclarations de Jean-Michel Blanquer, qui avait déclaré à la radio d'Europe 1 le jeudi 22 novembre ceci. Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme fait des ravages. Et il parlait des universités. On peut dès lors s'interroger. Que signifie ce terme d'islamo-gauchisme ? Eh bien, c'est un terme issu de l'extrême droite, qui se veut accuser de collusion les mouvements de gauche et l'islamisme radical. Ce manifeste décent, donc, tribune publiée dans Le Monde le 31 octobre 2020, signée par François Rastier, celui qui doit venir se présenter demain à l'ENS et qu'Echard conteste, se veut défendre les propos de Jean-Michel Blanquer. En effet, il y est dit, je ne fais que citer, « Les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales, transférées des campus nord-américains, y sont bien présentes. » On parle ici des universités. « Nourrissant une haine des Blancs et de la France. » Et un militantisme parfois violent s'en prend à ceux qui osent encore braver la doxa anti-occidentale et le préchi-prêcha multiculturaliste. C'est pour répondre à cela que Côme, un membre du syndicat Echard, est venu aujourd'hui échanger avec nous sur nos ondes. Bonjour Côme, tu es ici au nom d'Echard pour nous parler de votre communiqué de ce soir, donc du lundi 23 novembre, au sujet de la conférence de demain dans le cadre des confapéros qui prévoit de recevoir François Rastier, un chercheur du CNRS, pour une intervention intitulée « Race et sciences sociales ». Echard a décidé de rédiger un communiqué pour s'opposer à la venue de cette personne au nom de sa participation au dit « Manifeste des 100 ». Est-ce que d'abord, Côme, s'il te plaît, tu pourrais nous parler de ce manifeste, en tout cas, pas nous parler de ce manifeste, mais de positionner Echard par rapport à ce manifeste que vous qualifiez de passéiste ?
Tout à fait. Alors d'abord, je vais revenir sur un tout petit point pas négligeable. C'est que ce communiqué est à l'initiative d'Echard, mais il a aussi été signé par Itinérance, Arc-en-Ciel, Les Salopettes, Argus et Anvers. Donc nous ne sommes pas seuls. Voilà. Alors donc, en ce qui concerne le manifeste. Alors donc, Manifeste des 100, c'est donc un manifeste signé par 100 universitaires qui appuyait les propos de Jean-Michel Blanquer sur... le soi-disant islamo-gauchisme qui serait très puissant dans les universités françaises, dans l'enseignement supérieur. Donc en soi, le manifeste, il consiste essentiellement à prouver les propos du ministre, donc on peut limite tout de suite partir des propos du ministre. Et donc, nous, ça nous paraît intolérable, puisqu'il s'agit d'une attaque franche contre l'enseignement supérieur, hein, qui est assimilé aux islamistes, ça, il faut le dire, hein, c'est ce que le ministre a fait. Et donc en reprenant tout un catalogue de mots d'ordre de l'extrême droite, et nous n'inventons rien, hein. Donc en parlant d'idéologie indigéniste, racialiste, transférée des campus nord-américains, on nous dit que nous bravons professons une doxa anti-occidentale, mais tous ces mots-là, c'était une sorte de gloubi-boulga idéologique de l'extrême droite qui vise à décrédibiliser les avancées des sciences sociales. Et en fait, si on regarde comment c'est apporté, c'est juste balancé. C'est-à-dire qu'on va nous dire c'est importé des campus américains, c'est anti-occidental, c'est racialiste. Et en fait, c'est une sorte de mantra, c'est un principe, qui est invoqué comme ça sans être jamais justifié ni démontré. Ce sont des gens qui répètent ça en boucle et en boucle et en boucle, sans avoir de preuves, en fait. Et le fait, c'est que ce sont les mots de l'extrême droite. Hein. L'islamo-gauchisme, ce n'est rien de plus que l'actualisation du XXIe siècle du terme de judéo-bolchevique qui a été tristement utilisé par d'autres extrêmes droites en leur temps. Et donc là, ce que nous avons, c'est 100 universitaires qui se mettent du côté... du ministre dans son attaque de l'enseignement supérieur et qui se met même du côté de l'extrême droite, parce que reprendre les termes et la vision du monde de l'extrême droite, même sans y adhérer entièrement, c'est se mettre dans le camp de l'extrême droite. Et donc nous avons des gens qui, en quelque sorte, jouent contre leur camp, hein, qui trahissent l'université et qui accusent leurs confrères de sciences sociales de choses tellement délirantes qui n'existent nulle part en dehors de l'esprit de certains groupes d'extrême droite qui sont parvenus à influencer, il faut le dire, quand même de larges pans politiques de notre pays par leurs mots et par leur rhétorique.
C'est ça, donc ce qui est attaqué ici, c'est peut-être une mouvance, enfin pas une mouvance, mais en tout cas tout un mouvement un renouveau des sciences sociales qui se veut, est-ce qu'on peut le qualifier, excuse-moi si mes mots sont un peu maladroits, hein, je ne m'y connais pas énormément, mais d'anticolonialiste, c'est-à-dire d'une relecture du passé colonial de la France qui se voudrait nous confronter avec les exactions françaises dans le cadre de la colonisation, c'est ça ?
Alors, en fait, je vais devoir reprendre quand même quelque chose. C'est que déjà, le fait de dire que c'est un renouveau, c'est déjà reprendre leurs termes. En fait, ils disent que c'est tout nouveau, que c'est tout récent, mais les questionnements sur la race, les questions de ça aussi, hein, quand on nous dit que nous sommes racialistes, les questionnements sur les logiques derrière la colonisation, la dénonciation de la colonisation, alors qu'elle soit française, britannique, américaine, bref. La pensée sur la race comme une construction sociale, ça fait des décennies et des décennies que ça existe. Alors dans le champ français, parce qu'on dit que c'est importé des campus américains, mais la sociologue Colette Guillaumin qui est née en 1934, hein, donc on ne parle pas quand même de quelque chose d'extrêmement récent non plus. Ses travaux, on parle de travaux collectifs, donc j'isole Colette Guillaumin, mais il faut bien entendu se rendre compte qu'il y a plein d'autres chercheurs. Ses travaux sont déjà assez anciens. L'idéologie raciste, qui est un ouvrage qu'on peut dire fondateur, est sorti à la fin des années 60 quand même. En fait, ce sont des gens qui parlent d'une sorte de renouveau, de nouvelles choses, alors que bon, peut-être que les approches changent, les chercheurs changent, les angles changent, etc. Mais l'approche qui voit la race comme une construction sociale et l'approche critique de la colonisation en sciences sociales, elle est vieille. Elle remonte à plusieurs décennies.
Merci de me rendre un peu moins bête. Alors ensuite, j'aurais aimé parler avec toi de cette conférence en elle-même, parce que au-delà d'être signataire de ce manifeste, la personne, donc Monsieur Rastier, qui est présent demain lors d'une conférence de 18h à 20h, cet homme qui compte donc nous parler de race et de sciences sociales tout en étant linguiste, c'est ce que vous soulignez. Pour vous donc, il y a un lien très clair entre le fait qu'il soit signataire de ce manifeste et les thèmes qu'il va aborder. Vous pensez qu'il va défendre un agenda politique que vous associez à l'extrême droite, c'est bien ça ?
C'est bien cela. Alors encore une fois, tu le dis bien, nous ne nous prononçons pas sur l'adhésion ou non de ces gens-là, l'adhésion entière à l'extrême droite, nous disons juste que en reprenant les termes et la vision du monde de l'extrême droite, ils jouent dans le camp de l'extrême droite. La seule chose que nous pouvons dire de manière certaine et objective. Eh bien, effectivement, oui, s'il a signé ce manifeste, c'est qu'il y adhère. Ensuite, dans la présentation de la conférence, on peut voir que la question de la race aurait disparu depuis plus d'un siècle des sciences sociales, ce qui est un contresens énorme. Comme je viens de l'expliquer, la question de la race est présente depuis les années 60 et même encore avant. Hein. Je veux dire, si on prend part des États-Unis ou des intellectuels français noirs soumis au racisme, ils n'ont pas attendu les années 60 pour réfléchir à ce qui leur arrivait. Si on prend le cas de James Baldwin, par exemple, on a des réflexions américaines sur la race bien plus vieilles. Mais je passe sur les détails. C'est un contresens absolu. On ne peut pas... Et cela témoigne à soi seul de l'incompétence de cette personne pour traiter ce sujet. On ne peut pas dire... Oh là là, comme c'est étrange, la question de la race avait disparu depuis un siècle des sciences sociales, elle réapparaît, il faut en parler. Ça n'a pas de sens de dire ça. Et j'ai trouvé également un article de ce même François Rastier, donc paru sur le site internet non-fiction, alors je ne connais pas, mais qui s'intitule « Sexe, race et sciences humaines et sociales ». Comment dire, en fait, ça n'a pas de sens. Cette personne ne sait pas de quoi elle parle. Personne ici ne conteste ses compétences de linguiste. Hein, nous ne sommes absolument pas habités pour le faire. Mais il a quelque part quelque chose qui ressort aussi dans la présentation de la conférence. C'est la défiance envers les cultural studies, donc études culturelles, qui seraient liées à la cancel culture. Alors cancel culture, c'est encore autre chose. Enfin, ça n'a rien à voir avec les cultural studies. Enfin, je pense que là, il joue juste sur la proximité entre les mots pour faire croire que c'est la même chose. Ça n'a pas de sens. Il y avait une phrase qui était assez impressionnante. Voilà, les cultural studies veulent, alors déjà ils ont une volonté. Je cite texto. Hein, les cultural studies veulent imposer une interprétation dogmatique qui ferait de la sexualité entre parenthèses homo ou trans, fermez les parenthèses, le sens ultime visé par toute compréhension. C'était là un principe majeur du puritanisme dès le XVIe siècle. Bon, je coupe. On a déjà vu l'inanité du propos. Les cultural studies, c'est un ensemble extrêmement vaste, ce n'est même pas une école, c'est une sorte de champ de réflexion qui englobe énormément de disciplines des sciences sociales. même plus, plus largement encore, qui existe depuis les années en plus 1960 au Royaume-Uni. Donc ben bref, les gens qui s'en revendiquent ne sont pas d'accord sur la définition, enfin. Ça n'a. Bref, en fait, on a. C'est un ensemble qui, justement, qui est très mal défini, qui est assez vague à part une approche générale. Et en fait, utiliser quelque chose comme ça de très vague pour faire peur, pour épouvanter et dire regardez, c'est des intellectuels qui détruisent la bonne pensée de l'intérieur, en fait, c'est une catégorie. Ça, c'est vraiment une tactique de l'extrême droite. Ils le font, par exemple, avec. En parlant de postmodernisme. Personne ne sait vraiment trop ce que ça veut dire. Du coup, on y fait dire tout et n'importe quoi. Et on rend ça très dangereux en grossissant et en servant du fait que, puisque personne n'est d'accord sur la définition, on peut bien donner n'importe quel sens à ça. Et par exemple, il y a des chercheurs à l'ENS de Lyon, des professeurs qui se réfèrent aux cultural studies, par exemple. Donc, c'est une attaque même contre des professeurs qui sont aussi à l'ENS. Mais donc, par cet article-là, oui, il délire littéralement, hein, je suis désolé, je ne peux pas dire autrement, sur les cultural studies, on voit bien qu'il n'a pas signé le manifeste pour rien et qu'il va très sans doute tenir le même genre de propos et développer le même genre de discours à la conférence de demain.
Je vais faire l'avocat du diable, en quelque sorte, ici, en termes de, pour poser une question qui est un peu intermédiaire. Ce serait de dire que, est-ce que finalement, que ce chercheur ne s'exprime pas à l'ENS avec sa conférence, est-ce que tu ne considères pas que Echard répond ce mouvement par la censure? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté parce que c'est assez ironique d'ailleurs, parce qu'on pourrait vous accuser, si je reprenais les termes qui seraient utilisés dans ce cas-là, de cancel culture, justement. Qu'est-ce que tu répondrais à ça si on te faisait ce genre de critique?
J'y réponds d'une façon, c'est que la personne interrogée parle en dehors de son champ d'expertise et d'un sujet dont ses interventions précédentes ont démontré qu'elle ne le maîtrisait pas. En fait, le simple principe d'inviter François Rastier pour parler de ce sujet-là, ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste par exigence scientifique, en exigeant que quelqu'un qui a les compétences et la méthode pour traiter d'un sujet le fasse, que quelqu'un qui n'a pas ça ne le fasse pas, par simple exigence scientifique, on pourrait refuser à François Rastier, et c'est pas refuser de... à refuser qu'il s'exprime, mais simplement que dans un cadre scientifique comme celui-là, on invite quelqu'un qui sache de quoi il parle. Et deuxièmement, on parle de quelqu'un quand même qui se prend à des pans entiers de la recherche, dans le but donc de les diminuer, et peut-être à fortiori de les interdire, donc de fait, et qui d'ailleurs a pour cela apparemment le soutien du ministère, qui est quand même c'est pas un point de vue isolé, c'est un point de vue qui a quand même une résonance jusqu'au ministère de l'Éducation, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Donc on est à quelqu'un qui est quand même qui a des idées proches du pouvoir politique sur le fait de diminuer des pans entiers de la recherche en sciences sociales. Donc la censure, elle est bien plus à craindre de sa part, en fait. Quand on regarde ce qui est en jeu au niveau de la censure actuellement, c'est bien plus ces gens-là qui défendent la censure. Et en dernier lieu, le fait est qu'il intervient seul. Et donc c'est vraiment, il va pouvoir donner non pas l'avis d'un scientifique, mais donner son opinion personnelle, puisqu'il parle en dehors de son champ de compétences, donc c'est une opinion, on n'est pas dans le domaine de la science. Sans contradiction, puisque c'est le seul intervenant qui est invité. Au moins, si ça avait été présenté comme une sorte de débat, ou avec au moins deux personnes, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce communiqué. S'il y avait eu un ou une des professeurs de l'ENS qui adoptait le point de vue des cultural studies, par exemple, que apparemment François Rastier a décidé de désigner comme bouc émissaire, en face, pour défendre son champ, pour défendre les sciences sociales, il y aurait eu un minimum d'équité, mais là, c'est simplement inviter une personne qui a déjà prouvé qu'elle se rangeait du côté de l'extrême droite sur le plan de ses opinions personnelles pour exprimer ses idées à elle sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas. C'est donc ce que nous répondons à ça, et tu fais bien de poser la question, parce qu'effectivement, on pourrait nous accuser de censure, mais on voit bien que ce n'est absolument pas le cas.
Bien, donc je comprends bien ce qui est dit ici. Donc votre communiqué a plus vocation à dénoncer la tribune qui est donnée finalement à cet homme. En suivant ce que tu dis, effectivement, il exprime son opinion puisqu'il n'est pas dans son champ de compétences. Et donc vous accusez plutôt le caractère de tribune qui n'est pas scientifique pour vous ici, dont ferait office cette conférence. D'accord, ce que j'ai bien compris, je reformule ce que tu dis parce que je trouve ça intéressant de le faire. Et donc, finalement, si tu avais une dernière chose à dire, je ne sais pas, peut-être une invitation, puisqu'on est quand même dans un contexte, effectivement, tu fais bien de le mentionner, où au plus haut des pouvoirs politiques, il y a quand même de sérieuses accusations vis-à-vis des sciences sociales sur ce qu'elles mineraient, hein, la cohésion, l'unité de la nation. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour inviter, je ne sais pas moi, les normaliens à se positionner sur ce sujet, éventuellement leur donner des clés pour mieux se positionner sur ce sujet?
Oui, tout à fait. Eh bien, ce que je dirais, c'est que de cette polémique là sur l'islamo-gauchisme des universités, elle n'est pas déconnectée du reste. Nous, nous pensons qu'elle va de pair avec la LPR, hein, qui est donc une loi de précarisation de l'enseignement supérieur, et qu'en fait, on est en train d'un côté de d'essayer de décrédibiliser les universitaires par ce discours totalement déconnecté et hallucinant, où on essaie de créer des liens entre islamisme et recherche en sciences sociales. Et de l'autre côté, on mène une attaque frontale hein, au Parlement avec des lois contre l'université. Donc c'est bien à deux volets. Hein. Si on veut, il y a un pan frontal, concret, d'attaque par la loi, par des restructurations de l'ESR. Et il y a un pan qui va être sur le plan de la légitimation, justification. Si jamais on arrive à faire passer les gens de l'ESR et surtout les universitaires et les étudiants, enfin les étudiants et étudiantes de l'ESR pour des sortes d'islamistes déguisés ou au moins des complices, eh bien on amoindrit totalement leur voix. Personne n'a envie d'être d'accord avec des islamistes, personne n'a envie de défendre des islamistes, et puis à raison. Et donc nous, nous pensons que tout cela, ça nuit à la liberté de la recherche, ça nuit à la fonction sociale même de l'université, qui est quand même de produire du savoir, de produire du savoir sur notre société s'organise. Et on veut en fait nous empêcher de penser l'organisation de la société, l'organisation des différentes formes de domination. C'est pour ça que nous, effectivement, nous invitons les normaliens et plus largement toutes les personnes qui sont liées à l'ESR à se dresser donc à la fois contre les attaques absolument infâmes qui nous sont adressées et contre les offensives légales qui sont menées actuellement contre nous.
Bien, je pense que tu as pris cette tribune et tu l'as rondement bien menée. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de parler avec nous et j'espère que ton message retentira et convaincra peut-être ou en tout cas enclenchera un débat. Je te remercie comme.
Je te remercie également de m'avoir accordé cette interview.
Voilà qui conclut notre échange avec Com, venu au nom des Chardes, pour échanger sur ce communiqué qu'ils ont réalisé le 23 novembre 2020. Je vous invite à tous vous renseigner davantage sur les thèmes évoqués ici, car ils dépassent largement le cadre de l'ENS et concernent plus largement tous les futurs chercheuses et enseignantes.